vous transmets les salutations des frères et sœurs d'Albertville, puisque la semaine passée, nous étions avec eux. L'évangile de Luc, chapitre 9, verset 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Retenons, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Acte 20, verset 7, vous allez vite comprendre le thème de ma méditation au fur et à mesure des lectures que je vais vous proposer. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Et Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, et c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme un plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et au cas où vous n'auriez pas compris, 2 Pierre chapitre 3, verset 1er. Deuxième épître de Pierre chapitre 3, verset 1er. « Voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, etc. » Je m'arrête là. Pierre nous dit dans sa deuxième lettre dans quel but il a écrit. Il a écrit dans le but de tenir les chrétiens éveillés. Nous le savons, et c'est important, le sommeil est une bonne chose. Parfois, certaines personnes sont un peu fières de ne pas dormir beaucoup. Ce n'est pas une bonne chose. Hein. Les gens qui ne dorment pas beaucoup, quand le sommeil les lâche, c'est dangereux. Ça peut craquer. Dormir et une bonne gestion du sommeil, c'est bon sur le plan physique. Mais la Bible en parle aussi sur le plan spirituel. Et là, nous venons de lire des textes qui nous interpellent et qui nous rappellent qu'il n'est pas bon de dormir sur le plan spirituel. Il y a une parole très forte, hein, Romains chapitre 13, hein, où l'apôtre Paul secoue un petit peu ces chrétiens de Rome et leur dit, hein, « C'est l'heure de vous réveiller hein, !» On n'aime pas. Hein. Dans un temps, dimanche matin, je vais dans une chambre à la maison, je ne dirai pas laquelle. Hein, je sonne le réveil parce que ça tarde. Ça ne fait pas plaisir. Je ne suis pas bien reçu, vous voyez. Ce n'est pas toujours évident, le réveil. On va se poser trois questions et on s'attardera sur la troisième. La première question, ça veut dire quoi dormir spirituellement parlant? Parce que être endormi spirituellement ne doit pas être confondu avec être calme. Vous avez des personnes qui sont très calmes, mais très réveillée sur le plan spirituel. Et vous pouvez avoir des personnes qui sont prêtes à sauter, gesticuler, se rouler par terre, et qui sont en plein rêve, pour ne pas dire en plein cauchemar. Mais je crois que c'est important de bien réfléchir à ce que nous vous disons, hein, parce que des fois on peut dire, un jour quelqu'un m'a dit, faut te réveiller là. Et je l'ai regardé, la personne, je pensais être réveillé, quoi. Enfin, ça dépend ce que l'on met derrière ce mot. Le sommeil, c'est quoi? C'est une déconnexion. Et spirituellement, ça veut dire que quand on est déconnecté de la réalité et qu'on vit dans ses rêves ou dans ses illusions et qu'on est déconnecté des réalités divines, quelque part on dort. Le sommeil, c'est un relâchement des muscles, de l'attention, de la réflexion, du cerveau. Le cerveau se lâche, hein, alors il part dans tous les sens et nous fait de la composition. Quelque part, on dort spirituellement quand on se relâche aussi dans ses devoirs, dans son attention, dans sa piété, dans ses responsabilités, dans ses positions de foi, dans ce que Dieu attend de nous. Et puis le sommeil, c'est une perte de contrôle sur le conscient et sur le présent. Et on dort spirituellement quand on perd le contrôle sur soi-même, quand on commence à se laisser dominer dans nos vies par certaines choses. Ça peut être quoi? Ça peut être des sentiments destructeurs, comme la colère, comme l'amertume. Quand quelqu'un commence à ruminer l'amertume, ben il commence à s'endormir sur un plan spirituel. On peut être dominé par une convoitise. On peut être dominé par un mauvais désir, par une passion. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es dans cette position-là, tu as besoin de te réveiller. Et finalement, on est dominé et quelque part, on perd le contrôle. On n'a plus ses sens spirituels, la conscience s'endort. La réflexion est anesthésiée. La sensibilité s'éteint. On a du mal à se concentrer sur les choses de Dieu. Enfin, c'est ça, on commence à s'assoupir. On doit veiller là-dessus pour qu'à l'intérieur, ça fonctionne bien et ça soit toujours en éveil. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des hauts et il y a des bas. Hein. Il y a la pente et la côte. Hein. Et puis, la deuxième question, est-ce que c'est dangereux de dormir spirituellement? Bien sûr que c'est dangereux. La réponse est évidente. Et encore plus à certains endroits ou à certains moments, si vous endormez au volant, il peut y avoir souci. Si une sentinelle s'endort, ça peut être dangereux. Dormir spirituellement, ça peut nous faire passer à côté de belles choses. Les vierges folles, elles en savent quelque chose. Hein. Elles ont dû se pomponner toute l'après-midi pour être à la fête. Et malheureusement, comme elles s'endorment au dernier moment, enfin, elles ont tardé. La porte est fermée, elle passe à côté. Ça fait quand même un réveil douloureux. Mais on a quand même d'autres beaux exemples de personnes qui ont su rester éveillées. J'aime beaucoup ce verset que j'ai lu en premier, dans Luc chapitre 9, verset 32. Il nous est dit, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Mais il est beau ce verset, je le sors de ce contexte, mais il est beau. Alors je rappelle le contexte. Nous sommes sur le mont de la transfiguration. Les disciples sont montés sur la montagne. Alors, ils ont dû faire une bonne journée de marche. Ils sont un petit peu fatigués. Mais enfin, ils sont montés. Ils ne savent pas trop pourquoi Jésus les fait monter. Et voilà que la gloire de Dieu commence à se manifester. Il y a quelque chose de très fort. Et puis, il y a Jésus qui est là entouré de nuées. Et puis, à un moment donné, alors il voit Moïse, il voit Élie. Et même Pierre, il ne sait plus ce qu'il dit. Là. À ce moment-là, il perd un peu pied. Hein, il est là à dire, on va dresser trois tentes, Seigneur. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils ont quand même tenu éveillé et ils ont pu voir. Ils ont pu voir quelque chose de glorieux, quelque chose qui les a marqués. Parce que quand il écrit son épître, il est marqué par ce qu'il a vu sur la montagne. Il en parle. Je pense aussi à un autre homme, c'est Abraham. À un moment donné, Abraham a offert un sacrifice. Mais le feu ne descendait pas. Et à un moment donné, il nous est dit qu'un profond sommeil est en train de descendre sur lui. Mais il a résisté. Il a lutté contre les oiseaux de proie. Et il a bien fait, parce qu'à un moment donné, le feu va descendre, et le Seigneur va apparaître, et le Seigneur va renouveler sa promesse. Mais s'il s'était endormi, il serait passé à côté. On a tous le souvenir des fois, parce qu'on a dormi, d'être passé à côté de quelque chose. Alors ça ne dit pas, il faut. Mais je parle sur le plan spirituel, bien évidemment. Dormir peut aussi nous faire basculer. Eutychus, il en sait quelque chose. Hein. Bon, le pauvre Eutychus, on a souvent tiré sur lui, surtout à l'église junior, on tire souvent dessus. Mais c'est vrai que il y a des moments où il ne faut pas s'endormir parce que la chute, elle peut vite venir. Et puis, dormir spirituellement peut faire de nous une proie facile. J'aime bien regarder de temps en temps les reportages sur les animaux, surtout sur la savane. Mais j'ai remarqué quelque chose. Les animaux qui dorment le plus sont ceux qui n'ont rien à craindre. Hein. Le lion dort 20 heures sur 24. Mais parce qu'il n'a pas de prédateur au-dessus de lui. Parce que le petit animal qui va dormir 20 heures sur 24, je donne pas cher de son existence. Hein. Et on le comprend. On le comprend. Et la Bible parle d'un homme qui s'est effondré de fatigue. Jabin qui était poursuivi par Israël. Et Jaël va prendre, elle va lui enfoncer le pieu dans la tête. Vous vous rappelez de cette histoire? C'est pas la plus belle des histoires, mais le sommeil peut faire de nous une proie. Nous avons un ennemi qui rôde comme un lion rugissant autour de nous. Et quand il voit qu'un chrétien baisse sa garde, quand il voit qu'un tel, ça fait bien longtemps qu'il n'a plus ouvert sa Bible, quand il voit qu'un tel, la réunion de prière, elle ne sait pas ce que c'est, quand il voit qu'un tel commence à faire des bordures, ben il n'est pas loin. Il n'est pas loin. La troisième question que l'on va se poser, c'est celle sur laquelle je vais un peu plus m'attarder. Qu'est-ce qui provoque du sommeil? Qu'est-ce qui peut nous endormir? Alors, il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de choses. J'en ai sélectionné quelques-unes. La première chose qui peut nous endormir, on l'a lui, c'est la nuit. Ce sont les ténèbres. Je ne sais pas vous, mais je pense que vous êtes un peu comme moi. En été, on a plus de mal à dormir qu'en hiver. On a besoin, hein, c'est parce que le jour est là. Et ça, on le comprend. Et je crois que c'est une évidence. Rappelez-vous, il y a un homme qui est souvent confronté au sommeil, c'est Samson. J'en ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Mais les Philistins, à un moment donné, voulaient le piéger au point du jour, à la fin de la nuit, là. Ils voulaient le piéger. Heureusement, il s'est levé en pleine nuit. Et il va y échapper cette fois-ci. Mais on sait que plus tard, il se fera quand même avoir à nouveau. Et le réveil sera douloureux. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, je ne vais pas m'étendre trop sur ce point-là, mais nous vivons dans un monde de ténèbres, où les ténèbres sont de plus en plus épaisses. Jésus a dit que la nuit vient où personne ne pourra travailler, on ne va pouvoir que dormir. Je le dis comme ça. On ne peut pas empêcher les ténèbres de régner autour de nous. Ça, on ne peut pas. Mais on peut les empêcher de régner sur nos vies. On peut les empêcher de régner dans nos maisons. Et je crois que c'est important. Jésus a parlé d'une lumière qui ne doit pas être mise sous le boisseau, mais qui doit être placée dans le centre de la maison. Et pour qu'elle puisse éclairer au maximum, pour qu'elle puisse rayonner au maximum. Et je crois que pour nous, c'est important. La Bible nous invite à marcher comme des enfants de lumière. Et c'est un combat permanent. Parce que les ténèbres, ça vient des fois tout doucement, comme le soir, où on ne se rend pas compte. Et puis à un moment donné, on se dit, mais j'y vois pas bien, et j'ai besoin d'éclairer. On commence à s'assoupir. On a besoin de veiller sur notre cœur, à ce niveau-là. Et de maintenir la lumière, avec tout ce que Dieu peut apporter comme lumière. Je ne m'étends pas sur ce point, il est évident, mais c'était bien de commencer par là. Je voudrais citer un deuxième facteur, et je vais revenir sur Eutychus. Eutychus, il était assis au bord de la fenêtre pour être plus à l'aise. Il nous a dit qu'il y avait des lampes. Il devait faire chaud, donc il était un petit peu là et pour respirer un petit peu. Malheureusement, il va s'assoupir, s'endormir, être entraîné par son sommeil, une chute de 3 étages Au final, il est mort. Dieu va faire un miracle. Je suis toujours impressionné par la foi de Paul. Hein. Ils le mettent dans un coin, ils continuent de parler. Si nous, on a un mort, tout s'arrête. Mais l'apôtre Paul est une foi, a une foi remarquable. On remarque plusieurs dangers. D'abord, le danger d'être assis sur une fenêtre entre deux mondes. Ah, et fenêtre, ça peut ouvrir beaucoup de choses, le mot fenêtre. Entre l'Église et le monde extérieur, entre la vie de Dieu et le monde extérieur. Et puis, il y a le danger de s'endormir profondément. Parce que si on maîtrise au début, le sommeil, on le maîtrise de moins en moins. Et puis, il y a le danger d'être entraîné par le sommeil et de finalement tomber dans le péché, dans la tentation, dans une mort spirituelle. Mais qu'est-ce qui a provoqué le sommeil? Alors, bien sûr, il y avait la chaleur, il y avait la nuit, il faisait tard. Mais je voudrais faire ressortir un autre facteur, c'est l'ennui. Alors, c'est vrai que le prédicateur du soir, il a dépassé la demi-heure conventionnelle ce soir-là. Hein, parce qu'il nous est dit que l'apôtre Paul a parlé tard dans la nuit, et puis en plus, il a continué de parler encore ensuite, hein, jusqu'au matin. Alors, c'est vrai que ça devait être un peu long pour peu que le sujet était eschatologique, un petit peu trop doctrinal. Avec la chaleur des lampes, s'il y avait la fatigue de la journée de travail, on se met à la place de Tychus, hein, on peut le comprendre. Et j'essaye de visualiser la tête de Tychus quand Paul dit « je vais attaquer mon quatrième point » ou mon cinquième point, vu la durée des premiers. Je me mets à sa place. Mais en plus, Paul, il fonctionnait à l'ancienne. Il n'y avait pas de diaporama, de petits gifs animés, des petites choses comme ça pour essayer de... C'était une simple parole, mais ça devait être intéressant de l'écouter. Mais tout ça m'interpelle et on peut comprendre l'attitude de Tychus, on lui tire dessus, on va pas le blâmer. Hein. Mais ça nous ramène, nous, par rapport à notre écoute de la parole de Dieu. Combien on doit l'écouter comme au premier jour. C'est Jésus qui écrit à l'église de Sardes et leur dit, « Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » Ah, je crois que la parole, c'est quelque chose qui doit toujours avoir un intérêt dans notre cœur. Elle doit toujours nous passionner. Alors c'est un vrai combat. Parce que des fois, il y a un air de déjà entendu. Et puis, ça prend l'air d'une petite berceuse et d'une petite comptine. Et ça risque de nous endormir en doigt, aimer la parole. C'est comme avec la manne. La manne, au départ, c'était super, ça avait un gâteau de goût de miel. Mais la manne, tous les jours, ça sortait par le nez, ils disent. Et même s'ils ont trouvé toutes les astuces pour la cuisiner, c'était quand même tous les jours. Mais je crois que c'est important. Pourtant, c'était pendant tous les jours, ça avait un goût de gâteau au miel. C'était quelque chose d'excellent. Et pendant tous les jours, c'était un miracle. C'est vraiment un défi pour nous, frères et sœurs. Mais travaillons dans notre cœur pour qu'on soit toujours des passionnés de la parole. Et lorsqu'on la lit, « Seigneur, parle-moi comme au premier jour. Viens nourrir mon âme. » C'est vraiment un défi, frères et sœurs. Parce que s'il n'y a plus d'intérêt pour la parole de Dieu, je suis déjà en train de dormir. Et c'est un vrai défi. Un vrai défi. Là, il faut cultiver l'intérêt pour les choses de Dieu. Une sœur me disait, pas Annecy, hein, un jour elle me disait, « Je serai absente, mais je serai présent en esprit avec vous. » Ça, c'est pas possible. L'inverse est possible. On peut être présent là, mais absent en esprit. Ça, c'est possible. Mais être pas présent et présent en esprit, c'est pas possible. Et je crois que on veut être là et avoir soif de la parole de Dieu, avoir soif de connaître et de le cultiver, c'est un vrai défi. Mais faisons attention à cela. L'ennui caractérisait nos vies avant de connaître Jésus. On était un peu comme ces gens assis sur les places publiques. Et puis Jésus est passé dans notre vie. Jésus a éclairé notre cœur. Jésus a pardonné nos péchés, il a donné du sens à notre vie. Et avec le temps, je n'ai pas envie de revenir ce que j'étais avant, comme assis sur les places publiques à rien faire. Mais je veux cultiver dans mon cœur l'intérêt pour la parole de Dieu. Ça veut dire des fois d'éteindre certaines choses, ça veut dire de faire abstraction de certaines choses. Mais ma prière, Seigneur, donne-moi de dévorer la parole de Dieu, de la désirer, que je puisse toujours recevoir quelque chose. un troisième facteur. Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6. Verset 6. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseuse, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Un passage qui dénonce l'oisiveté et la paresse, et vous savez que les proverbes condamnent souvent la paresse, et ce texte nous montre que la paresse peut être une cause de pauvreté. Les pauvres ne sont pas toujours des paresseux, mais la paresse peut conduire à une forme de pauvreté. Dans Proverbe 24:30, il dit « J'ai passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai été tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras et mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en larmes. » Salomon prend l'exemple de la fourmi. On sait que la fourmi, c'est une infatigable travailleuse. Et La Fontaine, La Fontaine s'est inspirée des proverbes. Hein. C'est pas l'inverse. Hein. La fourmi, c'est une infatigable travailleuse, tandis que la cigale, elle chante. Et le paresseux, lui, il a tendance à rester couché, à somnoler, à s'assoupir. Il est évident que l'oisiveté et la paresse conduisent facilement à une forme d'assoupissement, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. C'est important pour nous, frères et sœurs, de rester consacrés dans l'œuvre de Dieu, de rester engagés dans le service de Dieu. Il est question du champ, vous savez, le travail de la terre, c'est pas un travail de paresseux. Vous avez des métiers, des fois... Si on a envie de travailler, on ne va pas choisir le travail de la terre, hein, parce que ça commence très tôt, ça ne nous lâche pas. Nous, on a au moins trois champs à surveiller sur lesquels on ne doit pas dormir. Le premier champ, c'est celui de mon cœur. Il faut constamment veiller dessus, parce que les ronces, ça revient. Hein. Ça revient. Hein. On a eu à quelques périodes, et là, on a découvert un petit peu les joies du jardin. Mais on sait que les ronces, ça revient constamment. Et constamment, il faut les enlever. Et dans le cœur, c'est la même chose. Et si on ne fait rien, notre cœur devient très vite comme une forêt vierge, une forêt plutôt envahie de ronces. Il y a un autre champ, c'est celui de l'Église, celui-là aussi. Vous êtes le champ de Dieu. Et puis un autre champ sur lequel on a une responsabilité. Le champ, c'est le monde par rapport à une parabole. Je voudrais simplement dire que pour ne pas m'endormir, il faut ne pas se laisser à la paresse, mais on doit être mobilisé dans le service de Dieu. Dans Luc 22, verset 40, l'évangile de Luc une autre cause de sommeil, Luc 22, verset, nous sommes à Gethsémané, verset 45, après avoir prié, il se leva, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il nous est dit que les disciples furent endormis. Là aussi, on peut le comprendre. Il fait tard dans la nuit. La journée a été longue. Ils viennent du village à côté. On le comprend. Sauf que nous vivons une heure terrible où Jésus a besoin de la prière de ses disciples et eux, ils dorment. Alors, il y a un détail intéressant. Il nous est dit qu'ils furent endormis de tristesse. Vous savez que le sommeil peut devenir une échappatoire. Je me rappelle une période de ma vie où j'allais pas bien et j'avais tendance à dormir beaucoup plus. Et certaines personnes qui souffrent de dépression ont tendance à dormir beaucoup plus, comme si c'était une échappatoire, une fuite. La tristesse et la déception peuvent être un facteur d'assoupissement, peuvent créer un assoupissement sur le plan spirituel. Jésus a dit des choses graves. Ce soir-là, eux qui espéraient devenir ministres de Jésus-Christ, accompagnés, Jésus a dit qu'il va partir. Il vient de leur annoncer qu'il va être mis à mort. Les disciples sont attristés d'entendre cette nouvelle. Ça ne leur plaît pas, ils sont déçus. Tous leurs rêves sont brisés. Et à cause de cette tristesse, ils se laissent aller. La tristesse et la déception peuvent m'amener à me relâcher. Elle peut m'amener à baisser ma veille. Le Seigneur n'a pas répondu à ma prière. J'ai prié pour trouver un conjoint et le Seigneur n'y a pas prévu. Alors je baisse. Ben, je commence à décrocher. Je commence à laisser aller. Et c'est comme ça qu'on peut se faire piéger. J'ai prié pour que le Seigneur intervienne dans tel domaine. Et le Seigneur ne l'a pas fait. Et c'est comme ça que la tristesse vient et puis on peut s'endormir de tristesse. On peut comme ça trouver, mais je crois que c'est vraiment important de veiller. Vous savez, des fois on dit, le Seigneur m'a jamais déçu. Taratata. C'est après coup qu'on peut dire ça, mais pas sur le moment. Combien de fois le Seigneur n'a pas exaucé une de nos prières? Et sur le moment, on est déçu. Mais c'est une fois qu'on a pu accepter que Dieu fasse autrement. Mais on a tous connu des déceptions où on espérait que le Seigneur pose sa main et il ne l'a pas fait. Les choses ne se sont pas passées, on a prié pour être guéri et les choses ne se sont pas passées. Et qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on change son fusil d'épaule, comme on dit. On revoit sa demande, on revoit ses attentes. La déception vient toujours d'un décalage entre mes attentes et la réalité. Mais si je reste dans mon idée, et j'ai besoin de changer, d'accepter que Dieu puisse faire les choses autrement et de rentrer dans ce qu'il veut. Et là, je vais faire attention. Mais si je reste sur mon idée, je vais risquer de décrocher, d'être déçu. Dans la Bible, on voit que des gens, quand ils ont été déçus, ils ont commencé à sombrer. Élie, il a eu un passage à vide, un gros passage à vide. Il s'est endormi d'ailleurs sous un genêt. Mais l'une des causes qui explique, c'est sa tristesse et sa déception. Parce qu'il pensait amener le réveil et ça n'a rien produit. Et il se laisse aller. Alors après, tout s'enchaîne. Mais vous avez des hommes, des fois, qui ont été déçus, puis ils ont su réagir. Nous connaissons tous Ésaïe, chapitre 6. La vision qu'Ésaïe va voir dans le temple. Quelque chose de glorieux. Mais il y a un détail qui est intéressant. Il nous est dit que c'est l'année de la mort du roi Ozias que Ésaïe a eu cette vision du temple, du Seigneur dans le temple. C'est quoi ce détail? Ozias fut un roi qui avait merveilleusement bien commencé. Le roi dont tous les prophètes espéraient, comment dire, accompagner. Et il a pris des réformes salutaires, ça a été super. Et puis à un moment donné, ça a dérapé. Et il a voulu prendre des places qui n'étaient pas les siennes. L'orgueil l'a envahi. Et il a commencé à déraper. La lèpre l'a atteint. Et ce qui est triste, c'est que la lèpre va l'atteindre, mais jamais il va se repentir. Et il va rester comme ça des années lépreux et finalement mourir. Et il nous est dit que l'année de la mort du roi Ozias, Ésaïe, il a eu cette vision du temple. Ça veut dire qu'il y avait tout pour être déçu. Cette année-là, il y avait tout pour décrocher. Il y avait tout pour se laisser abattre. Et cette année-là, quelque part, il restait encore disponible pour que Dieu parle. Et il a eu cette vision qui va marquer son ministère et sa vie. Je crois que c'est important de bien le comprendre. On vit des fois des choses difficiles. Il y a des coups durs. Et les déceptions, les coups durs peuvent soit des fois provoquer du sommeil et nous éteindre un petit peu, soit au contraire nous mettre en mode alerte, en mode veille, et c'est ce qu'il faut faire. Luc chapitre 21, donc vous avez une page à tourner juste avant, ou deux. Non, Luc 21, verset 36. Verset 34, pardon. Luc 21, verset 34. « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour devienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Et là, on trouve un autre facteur d'assoupissement. Quelque chose que l'on connaît tous. On fait un bon repas, un bon barbecue, avec une petite goutte de Côte du Rhône ou de ce que vous voulez. Et une fois qu'on arrive au café, il y a les ampoules qui commencent à clignoter pour certains. Hein, ça commence. Il y a une envie de sieste qui vous saisit. Alors les enfants ne comprennent pas ça. Mais vous comprendrez un jour. On n'échappe pas à cette règle-là. C'est inévitable. Hein, et puis chez certains, il n'y a même pas besoin du bon repas. C'est presque commandé. C'est inscrit. Mais on le comprend. Il est dit quand même, prenez garde que par les excès du manger et du boire, votre cœur ne s'appesantisse. On comprend tout cela. Et ça fait partie des choses normales. Maintenant, quand on applique ça sur le plan spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit tout s'interdire? Non, on sait très bien. C'est une question que je me pose souvent à partir de quand l'excès de table, manger devient un excès de table. Question que j'ai du mal à résoudre. Parce que si j'écoute certains qui mangent. Une fois, je visitais une dame âgée, et j'ai compris que l'excès de table, c'était vraiment dès que je mange trois chips, quoi. Hein. J'ai l'impression d'être tout le temps. Donc, c'est à partir de quand on peut parler d'excès de table et que c'est difficile. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que quand les préoccupations de la vie terrestre occupent la majeure partie de mon temps, finalement, aujourd'hui, je suis là, mais j'ai la tête déjà sur mon rôti qui va cuire tout à l'heure. Si, vous voyez, je suis là, mais quelque part, ma vie, c'est ce que je veux faire ce soir. Vous voyez, si ma vie, elle tourne autour de choses terrestres, et c'est ça qui me préoccupe, je suis déjà en train de dormir. Mon cœur est déjà appesanti par les excès du manger, du boire ou la vie de tous les jours. Et là, il faut veiller. On vit dans une société qui nous endort. On vit dans un monde qui nous endort. Et qui nous propose toutes sortes d'occupations. Et je crois qu'il faut constamment veiller sur notre cœur. Et je reviens sur Samson. Mais à force de jouer avec le feu, avec ça, on sait que son réveil sera quand même difficile. Il nous faut veiller là-dessus. Veiller sur tout ce qui peut nous endormir. En termes de loisirs, en termes de préoccupations, d'occupations, c'est. Alors je reconnais qu'il y a un équilibre à placer entre la famille, la vie d'église, la place du Seigneur. Tout ça doit être bien placé, bien fonctionner en termes de but et d'objectifs. Mais c'est quand même une difficulté. Mais faisons attention parce qu'il y a des choses qui peuvent nous endormir. Et puis un dernier point. Qui peut nous endormir dans, je reviens sur le texte de 2 Pierre, chapitre 3, hein, je cherche à éveiller votre intelligence, et si on avait lu au chapitre 2, il est question de toutes sortes de doctrines, de faux enseignements, de fausses promesses. Et je voudrais dire aussi, il y a des médicaments qui peuvent nous endormir. Hein, il y a des traitements qui nous endorment et qui nous ensuquent. Et qu'est-ce que je veux dire sur un plan spirituel, pour avoir des doctrines qui nous endorment. Vous avez des pratiques qui peuvent nous endormir. Ah, c'est la grâce, tu peux faire ce que tu veux, vas-y. Attention. Il n'y a pas d'enfer aujourd'hui. Vous avez des doctrines des fois qui circulent. Ou des fois des doctrines qui déplacent le champ des responsabilités. Faisons attention à ce qu'on entend. Parce que ça peut agir comme comme ces traitements qui peuvent vous endormir et qui empêchent d'avoir un esprit en alerte. Je pourrais citer d'autres. Il y a quelque temps, le frère Bruno Kyoki, il a parlé de la mouche tsetse. Mais la mouche tsetse, elle ne pique pas que les Africains. Hein. Vous avez des bons Français qui sont piqués par la mouche tsetse. Hein. Et il y a des choses qui peuvent nous endormir. Je termine simplement avec ce texte, Luc chapitre 9, verset 32. Appesanti par le sommeil, mais s'étant tenu éveillé, ils virent la gloire de Dieu. Ils virent la gloire de Jésus. Faisons attention, frères et sœurs, dans nos cœurs à tout ce qui peut provoquer de la somnolence, du sommeil, de l'appesantissement. On a un Dieu qui veut nous visiter. On a un Dieu qui veut nous maintenir en éveil. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Dieu connaît notre faiblesse. Des fois, on est plein d'enthousiasme, on est prêt à tout casser. Puis deux jours après, il n'y a plus rien. Dieu sait ce que nous sommes. Mais rappelons-nous, le Seigneur, il nous a sauvés. Il nous a sortis de ce monde de péché. Il est devenu notre sauveur. Et on veut vivre avec lui de tout notre cœur. On veut trouver notre plaisir à le suivre. On veut être en éveil et vivre avec Jésus. Ça ne suit pas à moitié. Vivre avec Jésus, vous savez, moi, s'il y a un moment que j'aime pas, c'est quand je dois lutter contre le sommeil. Je suis là, je suis encore là, mais je déteste ce moment-là. Alors, des fois, on est obligé de sauver la face. Mais je crois qu'avec la vie chrétienne, c'est un peu la même chose. Quand on lutte contre le sommeil, c'est pas bon. Mais quand on est pleinement réveillé, on vit de belles choses avec le Seigneur. Vivre avec Christ, c'est exaltant. Vivre avec notre Seigneur, c'est enthousiasmant. Et je crois qu'on veut garder cet objectif. Que le Seigneur nous aide. Ce que je partage là, on est tous dans le même combat, frères et sœurs. On doit constamment lutter sur tout ce qui peut nous endormir. Que le Seigneur nous aide à garder nos sens spirituels en éveil, à nous maintenir dans la louange, à nous maintenir dans le service de Dieu, à nous maintenir dans la lecture de la parole de Dieu, à nous maintenir dans cette volonté de faire du bien autour de nous, à nous maintenir dans ce rôle de témoin que Jésus nous a donné, à nous maintenir dans cette communion avec les frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide et nous encourage ce matin. Amen.